91.10.
Eh bien bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Château Radio qui va ouvrir cette saison radiophonique. Beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui et vous allez le voir, la forme a un peu changé par rapport à la saison précédente. On s'est dit que inviter des gens dans ce studio, ça ferait du bien à tout le monde. Et puis on se retrouve en direct, donc il y aura certainement quelques bourdes pendant l'émission, mais ne vous inquiétez pas, tout est normal. Et pour commencer cette émission, eh bien, on a des invités prestigieux en plus de notre équipe habituelle. Elisa, bonjour.
Bonjour.
Il y a Fred Mandard qui va nous rejoindre, donc, qui est le programmateur du Château d'Eau. Il y a Benjamin à l'Action Culturelle qui est à côté des micros qui viendra parler un petit peu. Et on reçoit aujourd'hui la grande patronne de l'association Mars, parce que ne l'oublions pas, Rémi vient souvent aux émissions, mais là il ne peut pas venir, qui est directeur du Château d'Eau, mais la grande patronne c'est bien sûr Mathilde, qui est présidente de l'association Mars.
Bonjour.
Bonjour. Et puis on aura des invités en plus de cette équipe habituelle, et aujourd'hui on a décidé de se tourner vers les gens de l'ombre un peu qui sont là à chaque spectacle, même avant, après, ce sont les techniciens comme on les appelle et nous avons Fabius et Fred Norgay qui on est très contents de les avoir dans notre studio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Eh bien, on va pouvoir présenter un peu cette nouvelle forme d'émission. Nous aurons d'abord, pour commencer, il y a eu cette introduction. Ensuite, nous allons bien parler avec nos invités, donc Fabius et Fred, de leur métier. Et aussi, on parlera un peu du statut d'intermittent. On aura ensuite un petit billet d'humeur présenté par Mathilde. Après, ça sera Benjamin qui nous présentera un peu, bien, lui aussi, son métier avec l'action culturelle. Et puis, on enchaînera avec l'agenda du Château d'Eau pour que vous ayez un maximum de dates pour les concerts et les différents événements organisés par l'Asso Mars. Eh bien, on commence tout de suite par un peu de musique, je vous propose. C'est le son choisi par Fabius.
Ouais.
Alors, ça te fait quoi d'ouvrir le bal ?
Je te dirai ça après, pour l'instant, ça va.
Est-ce que tu peux présenter le morceau que tu nous as choisi ?
Alors, il s'agit d'un groupe gallois qui s'appelle Future of the Left. Le morceau n'est pas tout jeune, hein, ça doit dater de 2009, donc déjà c'est vieux. Et voilà, c'est que je me refais une rétrospective chez moi de leurs albums, c'est pour ça.
Eh bien, voilà. Très bien. Eh bien, c'est parti.
We'll be right back.
Eh bien voilà, c'était la sélection de Fabius pour commencer cette émission. Fabius, tu es technicien, tu es assis juste à côté de Fred qui lui aussi est technicien.
Alors, exact.
Première question à vous poser, c'est, vous êtes tous les deux techniciens, mais j'imagine que dans les métiers du spectacle, il y a différents types de techniciens, différentes sortes de métiers, de spécialisations. Vous, quelles sont vos spécialisations ?
Alors moi, je suis technicien son.
Donc tu t'occupes du son.
Oui, voilà.
Moi, je suis technicien son, en fait.
D'accord. Est-ce qu'il y a des différences entre les techniciens son, peut-être ? Je ne sais pas.
Alors en fait, la grande différence, à la base, déjà avec Fabius, on est deux potes depuis très longtemps aussi, avant d'être intermittent, d'ailleurs, je crois. Mmh. Et en fait, moi, je suis technicien son, mais plus en studio. Fabius, je pense qu'il est... Enfin, à la base, il était aussi... Il a pas mal bossé en studio, mais maintenant il travaille plus sur du spectacle vivant. C'est peut-être un peu la différence fondamentale peut-être entre nos deux activités.
Mmh. Oui, puis ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que au niveau, ne serait-ce que des techniciens son, il y en a qui se spécialisent plus, par exemple, sur le calage de façade, c'est-à-dire ce que le son que reçoit le public. Il y en a d'autres qui sont plus spécialisés pour les retours, c'est-à-dire en concert, ce qu'écoutent les musiciens. D'autres qui se spécialisent plus sur le traitement du son pour préparer des bandes-son en théâtre ou en danse. Enfin voilà, même au sein d'un corps de métier, disons, mmh. qu'il y a plein de spécialisations et qui se réalisent, disons, au fur et à mesure, quoi, en fait.
Là, on est dans une émission où on va parler beaucoup de musique, mais on retrouve des techniciens son, comme tu l'as dit, dans le théâtre, dans différents domaines, en fait. Dans le cinéma aussi, j'imagine, l'audiovisuel.
Ah, carrément, oui, il y en a de partout. Oui, moi, j'ai fait le choix de ne bosser que pour le spectacle vivant, mais dans le cinéma, en audiovisuel, pour de la vidéo, pour des clips, comme le dit Fred en télé, oui, il y a plein de trucs, ouais.
Et vous devez avoir des collègues, des petits amis qui vous aident, quand vous, notamment, j'imagine, à la lumière. C'est ce qu'on voit le plus, la lumière, dans un spectacle.
Oui. Alors, donc, il y a des techniciens de lumière, donc, pour mettre en forme tout ça, même des ingés lumière, comme des ingés son. Après, il y a toute la panoplie, du salariat qui est représenté, en fait, là-dedans, en fait. Après, pour le spectacle, il y a des costumières aussi.
La régie aussi. Tu fais de la régie aussi.
De la régie, exactement, comme un cadre en entreprise peut être spécialisé.
Alors la régie, qu'est-ce que c'est, ce terme obscur ?
Le terme obscur de régie, en fait, c'est, comme son nom l'indique, c'est régir un peu ce qui se passe, alors à la fois sur le plateau, en son, au niveau des lumières, c'est-à-dire avoir une vision globale et générale, ça correspond, entre guillemets, à...
C'est une supervision un peu de...
Voilà.
Enfin, spectacle vivant. Ouais,
un c'est... coordinateur un peu de... Ouais. Des équipes. D'accord, très bien. Vous travaillez avec le Château d'Eau parfois ?
Oui.
Ça vous arrive, c'est pour ça que vous êtes invité. Hein. Vous ne travaillez qu'avec le Château d'Eau ou vous avez différentes missions, différents lieux de travail ?
Alors moi, je travaille très peu avec le Château d'Eau. Enfin, j'ai travaillé auparavant pas mal quand je travaillais à Pôle Nord, au studio Pôle Nord. Mais actuellement, je travaille... pour des artistes autoproduits, en général. Et je travaille un peu chez moi, je travaille un petit peu à Pôle Nord, je travaille dans d'autres studios. Voilà.
D'accord.
Et pour moi, non, je travaille pas que exclusivement au Château d'Eau, autrement je m'en sortirais pas, hein, même si j'aime beaucoup les équipes et le lieu. Non, je bosse après pour qui veut bien m'employer, en fait, des théâtres, des compagnies de théâtre, d'autres lieux, des associations, quand il y a besoin, voilà.
D'accord. Et toujours au même poste, où ça vous arrive de devoir être un peu plus polyvalent, de devoir...
On est obligé de faire d'autres choses. Moi, je fais aussi pas mal de sons au live maintenant. Des fois, je pousse des caisses, hein. Ça m'arrive aussi, comme on dit, je pousse des caisses, c'est-à-dire que je ne fais pas obligatoirement du son.
Mais tu aides à l'installation, au démontage.
Oui, après, ça, il faut s'adapter. Disons qu'en plus la structure la structure employeur est petite, plus il faut faire preuve de polyvalence, en fait. Donc, faire de la machinerie, faire du plateau. Je me suis même retrouvé à faire de la lumière, moi qui n'y comprends pas grand-chose. Donc, tu vois, voilà. Donc voilà, faut s'adapter.
Très bien. On parle souvent, quand on parle de technicien du spectacle, et là je lance le pavé dans la mare peut-être, du statut d'intermittent. C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler il y a 2 ans avec la loi travail, les manifestations sur la loi travail. Moi je me souviens de 2003, à l'époque je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, et je vais voir un concert de Bouskidou, groupe de rock pour enfants, c'était de la musique que j'écoutais à mon âge, quoi. Mmh. Et au milieu du spectacle, ils se sont arrêtés et ils ont dit, bon bah voilà, depuis le début du spectacle, on joue sans lumière. Et là, c'est un moment où normalement, on doit, y a un effet spécial avec la lumière et on peut pas le jouer parce que, eh bien, nos techniciens sont en grève et nous, on les soutient. Donc, on va faire cette partie-là sans lumière. Vous allez voir que c'est beaucoup moins intéressant. Et en effet, pendant 1 minute ou 2, bah, il se passait rien sur scène. Ils ne bougeaient pas. Et eh bien, c'était, voilà, 2003, et puis un peu plus tard, quand il y a eu cette fameuse loi travail ou cette fameuse réforme de l'intermittence, eh bien, j'ai repensé à ça et je me suis dit, tiens, on avait déjà vécu ça en 2003, pourquoi ça revient? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que défendent les techniciens qui travaillent avec eh bien, ce statut d'intermittent?
Alors déjà, juste avant de passer la parole à mon camarade, il ne s'agit pas d'un statut. Ah. C'est une déformation que tous nos chers médias et puis même que la profession fait, parce que c'est beaucoup plus simple pour l'expliquer, mais en aucun cas l'intermittence n'est un statut, puisque ça n'a rien à voir avec ce que pourrait être le statut de la fonction publique ou autre. C'est juste un régime d'indemnisation chômage qui est spécifique au métier du spectacle vivant et du cinéma ou de l'audiovisuel ou des spectacles enregistrés, puisque c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est juste les annexes 8 et 10 de l'UNEDIC, qui est l'assurance chômage, et qui correspond en fait à l'indemnité chômage que reçoit quelqu'un qui travaille dans le spectacle ou dans le cinéma, enfin qui dépend donc
soit
de ces deux annexes.
Soit un technicien.
Soit un artiste, soit un technicien. Oui, ça ne correspond.
Annexes 8 et 10, c'est.
Oui, voilà.
C'est les deux statuts, enfin deux régimes.
D'accord. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a de noté dans ces deux annexes? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Quelles sont les spécificités alors de ce régime?
C'est ce qui fixe en fait le système de comment on accède à ce régime déjà. C'est-à-dire qu'il faut cumuler un nombre d'heures dans une année. Donc ça, au fur et à mesure des années, ça a changé. À un moment, c'était sur 10 mois. Là, c'est revenu à 1 an. Et il y a un nombre d'heures à effectuer, qu'on soit technicien ou artiste. Dernièrement, le nombre d'heures était à effectuer sur 10 mois pour un artiste et 10 mois et demi pour un technicien, par exemple. Mmh. Et là, c'est redevenu à 1 an. Et donc, ces annexes, alors, c'est du texte qui explique, en fait... comment on accède à ce régime et comment aussi on est indemnisé, comment sont calculées, je pense, les indemnisations et tout ça.
Oui, ouais, ouais, en fait, ça nous permet, pendant les périodes où on est au chômage, c'est-à-dire où on n'a pas d'activité salariée, rémunérée, on ne dépend pas d'un emploi, quels sont nos droits aux ACEDIC, en fait, tout simplement. Comme n'importe quel autre salarié, quand il travaille, il perçoit un salaire, dès qu'il perd son emploi, il reçoit, s'il a des droits ouverts auprès de l'UNEDIC, il reçoit une indemnité chômage. Nous, c'est ces deux annexes-là qui définissent les modalités et de perception de voilà. Putain, c'est dur de parler bien. Putain,
c'est impressionnant hein, qu'on ait devant un micro.
Comment je peux dire des bêtises aussi?
Justement, alors comment il est apparu ce statut d'intermittent? Comment est-ce que vous avez, alors j'ai un document, vous m'avez amené un document, c'est très complet. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout expliquer ou si vous allez pouvoir tout décrire à la radio parce qu'on est limité par le temps, mais en tout cas c'est intermittence, vivre de son métier et fiche préparée à l'aide de l'ouvrage Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte. Donc on sent la lutte et puis on sent aussi une histoire parce qu'on parle de quelque chose qui a plus d'un siècle. Alors comment on est arrivé à ce régime particulier?
Et ben, tout commence par la première grève du spectacle en 1919. La première
grève. 2003, donc.
Non, c'est pas 2003, ça ne date pas d'hier, tout ça. Donc, en gros, ben, pour faire court, en fait, les artistes, c'est eux qui se sont mobilisés bien avant les techniciens, qui se sont mobilisés, en fait, pour faire face à la précarité de leur emploi et de leur métier, en fait. Puisque, en fait, quand vous jouez, la plupart du temps, vous êtes payé. Et dès que vous ne jouez pas, ben, il n'y a plus rien. Surtout à cette époque-là, où tout ce qui était assurance, chômage, les assurances sociales en général ne sont pas développées, voire pas trop, quoi. Donc, le bouquin fait démarrer ça en 1919, parce que c'est la première grève générale des spectacles, et qui marque quand même... le début, enfin quasiment le début de l'organisation des artistes, essentiellement, et rejoint aussi par les techniciens en syndicat, et la lutte pour de meilleures conditions de rémunération, pour de l'emploi, pour des meilleures indemnités, enfin pour pouvoir vivre décemment de son métier, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Donc après, si je peux faire vite fait un petit topo, ouais, donc de 19, en fait, le bouquin divise ça comme ça, entre 1919, donc sur cette première grève, et 1936, le Front Populaire, tout ça là, c'est ce qu'ils ont appelé, disons, la période corporatiste, où en fait toute la profession essaye de s'organiser autour du cœur de métier et défendre ça bec et ongle, en fait. Grosso modo, pour simplifier, il faut être syndiqué pour pouvoir travailler. C'est le but du jeu, c'est d'éliminer du marché de l'emploi tous les amateurs, tous ceux qui viennent, entre guillemets, à l'époque, piquer le boulot des artistes, puisque il n'y a pas beaucoup de taf, c'est mal payé, on est tous en concurrence les uns par rapport aux autres, donc voilà, il faut essayer de s'organiser. Et donc... à ce sujet-là, c'est dans les années 30, entre 28 et 1930, que les premières assurances sociales sont mises en place. Donc, elles sont mises en place à peu près dans toutes les professions, y compris chez les artistes et les saltimbanques d'une manière générale. Sauf que le souci, c'est que si chacun cotise en fonction de son salaire, étant donné qu'il y a très peu de cotisations, ça n'ouvre pas de droits y afférents, donc peu de personnes en bénéficient, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. Et tout le reste, eh ben, ça dépend de la solidarité privée, des mutuelles, des caisses spécifiques montées par les théâtres ou les patrons, ou des aides publiques de temps en temps quand c'est vraiment quand les gens crèvent la dalle et tout ça, quoi. Et donc à partir de 36, la profession elle s'organise, il y a donc la montée du Front Populaire, et c'est la première fois qu'on voit apparaître les contrats de travail. C'est dingue, hein, ça nous paraît évident, mais non, c'était pas si évident que ça au départ, hein. Voilà, la plupart du temps c'était des accords oraux. Et voilà, donc là, il y a vraiment une mise en place des conventions collectives, celles régissant le spectacle, elles datent de 1937. Et voilà, il faut donc... les congés spectacles, c'est-à-dire les congés payés, nous, ça date de 1939 pour les artistes, les techniciens du spectacle. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, donc, entre 1936 et 1979, donc, les artistes, les intermittents du spectacle, disons, ceux qui vivent des métiers du spectacle, eh ben, ils vont s'organiser pour essayer de défendre leur emploi, en fait. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit apparaître le terme salarié intermittent. C'est en 1937. Pour l'établissement des premiers contrats et tout ça, quoi, en fait. Voilà, et donc en 45, il y a le salaire minimum qui est fixé, donc ça aide au maintien à l'emploi, et ça évite la concurrence entre tout le monde et tirer les prix vers le bas. C'est aussi en 45 que les cotisations générales collectives sont instaurées, c'est-à-dire que le régime, c'est ce qu'on a appelé la sécurité sociale, en fait, la caisse générale de sécurité sociale. Elle est mise en place là par Ambroise Croizat et les communistes qui sont à l'époque au gouvernement. Et donc les salariés du spectacle sont affiliés au régime général, ça date de cette époque-là. En 1958, c'est l'UNEDIC qui est créée, c'est-à-dire voilà, les indemnités chômage, ça date de 1958. Mmh. Avant, c'était des aides d'État uniquement. Et donc, du coup, c'était un peu la portion congrue, quand ça voulait bien le faire, voilà, c'était un peu plus ou moins aléatoire. Et donc, ces annexes 8 et 10, elles datent de 1964 et 1967, en fait. Voilà, ça a été créé à ce moment-là. C'est-à-dire que ben, les syndicats d'artistes, la CGT, tout ça, ça a manifesté. Et en 64 et 67, il y a eu deux annexes spécifiques pour l'indemnisation du chômage des professions du spectacle qui ont été créées, et celle du cinéma en 67. Grosso modo, et pour les patrons, les conventions syndéac, c'est en 73. Mmh. Voilà, je pense que le Château d'Eau, vous vous dépendez des conventions syndéac.
Conventions syndéac, oui, maintenant.
Voilà, donc ça date de 73, voilà, quand le patronat, de son côté, hors CNPF... À l'époque, CNPF, l'ancêtre du MEDEF.
Ça devient technique.
Oui, ça devient technique. Et ben, c'est eux qui s'organisent parce que les autres, enfin voilà, ils ne voulaient pas dépendre non plus du comité des forges, de la, enfin voilà, ils voulaient faire leur truc à eux et ils ont eu presque raison. Voilà. Donc du coup, pendant ces périodes-là, c'est le but, ça a été que la profession elle, s'organise pour essayer de faire en sorte que lorsqu'on n'avait plus de travail, c'est-à-dire que lorsqu'on n'était plus engagé par un théâtre, lorsqu'on n'était plus en tournée sur un spectacle, à faire des concerts et tout ça, eh bien, on puisse avoir une indemnité, c'est-à-dire continuer à avoir un salaire pour pas tout simplement, pour pouvoir vivre.
Et moi, je me suis laissé dire, Fabius, qu'en fait, c'était aussi une façon d'aider le spectacle vivant, c'est cette création des annexes 8 et 10, par exemple.
Pas du tout.
Dans le théâtre, quand il y a la mise en scène et toutes les répétitions préalables à la représentation, est-ce que...
C'est pas une manière d'aider le spectacle du tout, non. Non. C'est juste pour aider les... en fait, au départ, tout ça s'est mis en place à la demande des salariés, que ce soit des artistes ou... C'est pas juste, tiens, on va filer l'obol au saltimbanque. C'est ces gens-là, artistes et techniciens, musiciens, toute la profession qui s'organise collectivement pour dire... Quand nous, on ne travaille pas, on va s'organiser, on va s'arranger pour qu'on puisse être indemnisé. Et on va le faire dans le cadre du régime général.
Oui,
il ne s'agit pas d'une aide à la création artistique, ça n'a rien à voir. On pourrait vendre des pommes ou des savons, ce serait la même chose.
D'accord.
Tu vois, ouais. On ne dit pas, ouais, bah, tiens, dans l'automobile, ils dépendent de la solidarité nationale. Non, et quand quelqu'un qui bosse pour l'industrie automobile, il est au chômage, il touche son chômage.
Je pense que ce que veut dire Mathilde, peut-être, c'est que en fait, tout ce qui est indemnisation, pardon, c'est... Ça permettrait quelque part de rémunérer une partie de la création qui est faite dans un temps qui n'est pas rémunéré.
C'est une vision complètement CNPF et complètement MEDEF, capitalistique.
Non mais alors, je peux parler juste des cachets d'artistes. En fait, quand un artiste fait... par rapport aux répétitions, on est obligé d'en parler.
Oui.
Quand un musicien fait un concert, il a un cachet qui correspond à 12 heures de travail. Et en fait, il est... A priori, il n'est pas... Enfin, 12 heures, sa journée de concert, ça va lui bouffer plus que 12 heures. Il va passer 4 heures dans le camion à l'aller, 4 heures au retour. Mais sur scène, il va être là 2 heures. Et en fait, ça, quelque part, ça permet aussi quand même de, entre guillemets, de rémunérer le travail de création, de répétition. Ce qui n'est pas vraiment complètement vrai, mais... Moi, j'ai un ami qui considère que il travaille dans une compagnie de tu le connais d'ailleurs, JP, et lui pense que et c'est une compagnie de théâtre de rue, et il pense que le statut d'intermittent, c'est une sorte de subvention, c'est son point de vue, pour les artistes, et lui, il refuse toute subvention de l'État pour sa compagnie. Il pense que le côté indemnisation extra travail du statut, de ce régime, lui permet de quelque part de créer en toute sécurité, ce qui est pas vraiment vrai.
Enfin, ça,
ce qui
est ça pas... c'est un apport on est quand même loin, personnel.
On est loin de la sécurité de l'emploi de toute manière.
Tout à fait, c'est de la précarité. C'est surtout un statut. Hein. Alors on peut parler de statut quand même parce que c'est un statut social précaire.
Vous en bénéficiez de ce régime,
tout à fait.
Certainement. Qu'est-ce qu'il vous permet de faire, alors pour vous, en l'occurrence, est-ce qu'il vous permet d'avoir des périodes, en effet, de non-travail ?
Remplir mon frigo, payer mes factures, comme n'importe quel autre salarié. Après, c'est parce que je reçois un salaire que je peux travailler. Et pas l'inverse, pour rebondir. Voilà, le régime des annexes 8 et 10 m'indemnise quand je ne suis pas en situation d'emploi, c'est-à-dire que je ne dépends pas d'un employeur. Mmh. Et ça me permet juste de continuer à payer mes factures et tout ça. Mmh. Autrement, je gagnerais deux fois moins d'argent, quoi, en fait. Je serais payé en dessous du SMIC.
Et est-ce que ce régime vous convient ? Ou est-ce que vous préfériez être employé à l'année ? Quels sont un peu les avantages et les inconvénients que vous voyez à ce régime d'indemnité ?
C'est un régime qui permet une certaine liberté en fait, dans l'emploi, donc de travailler avec différents employeurs, de travailler pour soi-même. Moi, je fais beaucoup d'enregistrement et de mixage. Et je travaille directement avec les artistes. J'ai jamais... En gros, je change de patron à chaque fois, donc je vois pas comment je pourrais être embauché à l'année dans ce travail que je fais là. C'est pas vraiment imaginable. Mmh. Après, c'est pas une finalité non plus. Je veux dire, moi, dans un coin de mon crâne, je me dis, j'aimerais bien trouver une autre forme de travail que toujours être comme ça, à compter mes heures pour pas perdre ce statut, pour pas. Il y a un côté course un peu aux heures aussi qui peut être un peu pénible. Parce qu'en fait, on a un nombre d'heures à effectuer, mais enfin, moi, en tout cas, dans mon domaine, en gros, quand je suis payé 8 heures, j'en fais 12. Donc, si on ramène tout au taux horaire, des fois, on descend très bas. Mmh. Après, c'est tout dépend des emplois qu'on a aussi.
Donc, une précarité réelle dans, dans le...
Ouais, une sorte de petite épée de Damoclès un peu tout le temps. Mais c'est pas assez, ça va. Je pense qu'il y a... Pour moi, il y a vraiment des gros avantages, des gros inconvénients, et c'est ça qui fait que c'est bien et que c'est pas bien, tout simplement.
Juste pour finir, après, on va s'écouter ta sélection musicale, Fred. Mmh. Là, en ce moment, il y a des manifestations. Hier, j'espère que vous avez été manifestés. Il y a toute une réforme autour du code du travail. Est-ce que ça va affecter ce régime d'intermittence ? Ou est-ce que vous vous sentez au moins concerné, même si ça n'affecte pas le régime d'intermittence ?
Alors, directement, ça ne va pas affecter le régime d'intermittence, puisque ce qui est en cause, là, c'est le code du travail et non pas les années, le régime UNEDIC. Mais comme tous les salariés, oui, ça va avoir un impact sur nos vies et notre travail et nos rapports à l'employeur et au monde du travail en général, oui.
Très bien. Le message est passé. On va passer sur quelque chose de beaucoup plus léger que ta sélection, Fabius. Fred, est-ce que tu peux présenter ton morceau ?
Ouais, c'est un groupe qui s'appelle Here We Go Magic, qui est new-yorkais, je crois, et qui a sorti un très bel album en 2012. Et ça, c'est un extrait, c'est un morceau de cet album. Il est interdit de s'endormir.
Over the Ocean, Here We Go, Magic, Here We Go Magic, c'était la sélection de Fred Norguet. On remercie encore Fabius et Fred d'être venus sur le plateau de Studio Zef. Et puis, si vous voulez plus d'informations, on vous conseille donc cet ouvrage, Les intermittents du spectacle, enjeux d'un siècle de lutte, par Mathieu et Grégoire, que vous avez tous les deux lu. Non.
Non, moi, j'ai pas tout à fait fini encore le bouquin.
C'est le livre de chevet du moment, c'est ça ?
J'en ai plusieurs, en fait. C'est ça le souci, c'est que j'en entame plein en même temps.
Ouais. Très bien. Eh bien, le temps d'un jingle et on laisse la parole à Mathilde.
Château Radio, l'émission du Château d'Eau sur Studio Z 91.10.
Alors moi, c'est avec un billet de bonne humeur que je prends part à ce cycle d'émissions Nouveau Format. Alors, on a tous des raisons, des bonnes raisons de se morfondre, il y en a plein. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire mon bonheur d'être bénévole d'association et depuis longtemps. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur le lancement de Guillaume tout à l'heure. Il m'a présenté comme la patronne du Château d'Eau. Ouais, je suis la patronne, mais... Il y a quand même une belle équipe et puis c'est à eux et aux bénévoles qui permettent que tout se fasse bien que je voulais rendre un hommage, mais j'avais envie de vous parler de moi. Alors moi, depuis l'adolescence, j'ai absolument toujours été engagée. J'ai fait plein de trucs dans les assos, différentes choses. J'ai vendu des crêpes, hein. Mes parents m'ont emmenée dans des festivals de babos, donc j'ai vendu des crêpes dans des festivals de babos. J'ai balayé la salle du Pré maintes et maintes fois après les concerts mythiques de Riposte. J'ai fait l'accueil en me pelant au château d'eau avec Fred ici, dans notre petite cabane en bois. J'ai vendu sur le bar mobile du château d'eau, un bar quand on se penchait trop, il s'écroulait par terre dans la grande salle, c'était terrible. Mais j'apprécie d'être engagée et j'aimerais vraiment que donner envie aux bénévoles que je vois aujourd'hui au château d'eau, leur donner envie d'aller plus loin. Moi, au départ, j'ai vendu des bières. Au départ, j'ai pris des balais, j'ai tracté, j'ai été mettre plein de pubs un peu partout. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Aujourd'hui, mon rôle a changé, mais je suis toujours autant engagée. Moi, en tant qu'administratrice du château d'eau, maintenant je suis présidente, mais je suis quand même avant tout une administratrice bénévole. Je me sens en toute humilité au service du public d'abord, et puis au service de l'équipe. J'apprécie leur travail. Alors évidemment, je fais un petit coucou aux intermittents qu'on engage de temps en temps, et certains qu'on n'engage pas assez fréquemment. Mais comme il y a une équipe, on n'a pas toujours besoin d'intermittents. Hein. Mais j'aime... Le côté d'être au service d'eux me plaît beaucoup dans mon engagement. Et je le rencontre à nouveau chez des jeunes et j'apprécie ce partage, ces moments d'échange. J'apprécie que l'équipe du Château d'Eau accueille les bénévoles, les nouveaux, les anciens. On fonctionne tous ensemble. D'ailleurs, on se retrouve bientôt, je crois, tous les bénévoles et l'équipe, hein, tous ensemble. J'aime vraiment l'évolution de mon engagement, en fait. Je parle beaucoup de moi, mais c'est vrai que ça fait 21 ans que je suis la vie du château d'eau. À 16 ans, je faisais partie de Riposte. J'en ai 52 maintenant, des années derrière moi, donc je peux en parler un petit peu. Je suis une ancienne petite bénévole devenue un peu plus responsable, on va dire. Je voulais terminer sur un petit clin d'œil. L'équipe du Château d'Eau bosse beaucoup. On accueille un public toujours plus nombreux et qu'on aimerait encore plus nombreux, toujours. Mais moi, j'ai un petit rêve. J'adorerais qu'on modifie notre espace fumeur. Alors, il y a eu des embellissements. Youl a contribué aux embellissements. Et moi, j'aimerais qu'on le déplace de 2 mètres. C'est mon rêve à moi. Et c'est avec une chanson de Boogers, I Lost My Lungs, que je veux vous faire part de mon clin d'œil, de déplacer l'espace fumeur du château d'eau. Thank you.
Eh bien, merci Mathilde pour ce petit billet d'humeur et avec donc I Lost My Lungs de Boogers.
Yes.
Eh bien, je vais me tourner maintenant vers Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Ça va bien?
Ouais.
Toi, tu es responsable de l'action culturelle au Château d'Eau. On peut rappeler rapidement pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté les Châteaux Radio l'année dernière, en quoi consiste ton métier?
C'est un métier qui consiste à ouvrir les portes du Château d'Eau, à faire connaître son activité, à créer des passerelles entre la musique et différents publics. C'est un métier qui est un peu dans l'ombre, comme les intermittents. Quand on ouvre la plaquette du Château d'Eau, on voit d'abord les concerts et c'est normal. Faut savoir qu'il y a une autre part de l'activité qui consiste à faire du lien avec certaines structures. C'est une commande du ministère de la Culture. Et ça vise à faire des passerelles avec des publics qui sont assez loin de la culture ou assez loin de la musique en particulier. On crée des projets avec des établissements pénitentiaires comme la prison à Blois. Mmh. On crée des passerelles aussi et des projets avec les centres sociaux, les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée, avec des publics, des établissements plutôt de soins qui accueillent des gens comme l'hôpital par exemple. On crée aussi des projets avec des structures de santé, comme on a fait beaucoup de projets avec des enfants autistes, par exemple, ou en situation de handicap. Voilà, ça c'est tout ce que mon métier regroupe.
Ouais, ça a l'air d'être chouette en tout cas comme métier.
C'est vraiment chouette. Ouais, ça c'est pour vous expliquer globalement. Pour vous expliquer, rentrer un peu plus dans le détail, on peut faire des visites du Château d'Eau. On peut faire des rencontres avec des artistes, on peut faire des concerts dans les structures, on peut faire venir passer sur scène au Château d'Eau. Voilà, c'est un peu ce genre de projet qui s'adapte à chaque fois en fonction du public, de leur âge, de leur spécificité. Voilà.
Et là, tu viens nous parler de rencontres d'artistes, donc.
Ouais, exactement. Là, je vais vous parler de types de projets qu'on peut faire avec les centres sociaux. Avec les centres sociaux, il y a des professionnels qui travaillent à ce que leur public, qui sont souvent soit en situation de précarité, soit qui sont assez loin de la culture, ils travaillent à ce que leur public, ils s'approprient ce qui se passe sur la... C'était dur à dire ça. Ils s'approprient ce qui se passe dans la ville, qu'ils aillent dans des structures, qu'ils sortent un peu de leur quartier, qu'ils rencontrent des gens. Voilà, c'est un peu leur leitmotiv à beaucoup. Moi, avec les centres sociaux, je leur propose de venir au Château d'Eau, qu'ils emmènent leur public, qu'ils viennent au Château d'Eau, qu'ils poussent les portes du Château d'Eau. Il y en a beaucoup, quand je vais les rencontrer, qui voient ce que c'est, ils voient très bien le Château d'Eau, ils voient ce qui s'y passe, mais ils n'y sont jamais rentrés. L'objectif, c'est de prendre ce public par la main, de l'emmener une première fois au Château d'Eau, donc pas sur un concert, en journée, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur expliquer qui on est, qu'ils puissent mettre une tête sur un lieu, qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler des tarifs, qu'on puisse parler des styles musicaux, qu'on casse un peu tous les a priori qu'il y a
autour d'une salle de spectacle.
C'est ça, exactement. bientôt, on accueille en résidence Repos pour Rose. Repos pour Rose, c'est un groupe de Vendômois qui étaient amateurs il n'y a pas longtemps et qui sont devenus professionnels et qui là tournent sur la France. Ils sont en résidence, ça veut dire qu'ils viennent travailler au Château d'Eau sur un temps de journée pour préparer un album ou une tournée. Ils s'enferment au Château d'Eau, c'est pas ouvert au public, c'est vraiment un espace de travail. Moi, ce que je propose aux centres sociaux, c'est de, sur deux jours, les 28 et 29 septembre, c'est de venir au Château d'Eau avec leur public. Je vais accueillir plusieurs centres sociaux, donc un public, on va les... Je vais leur expliquer ce que moi je fais comme travail, je vais leur expliquer ce qui s'y passe au château d'eau, le travail des intermittents par exemple, ou de la programmation. On va parler des tarifs de toutes nos missions. Et ils vont aussi pouvoir assister à un petit concert en live. Ça, c'est un peu le bonus.
Le bonus.
C'est ça.
Très bien.
Voilà, c'était pour vous expliquer un peu assez vite mon travail. Je vous en dirai plus dans les autres émissions, mais c'était pour vous éclairer.
Très bien. Bah, tu es le bienvenu, en tout cas, au studio de la radio. Et puis, on s'écoute eh bien, le temps d'un petit jingle et on va passer à ce que tout le monde attend, l'agenda du Château d'Eau.
Château Radio, l'émission du Château d'Eau sur Studio Zef 91.10.
Eh bien voilà, donc je commence cet agenda du Château d'Eau, une fois n'est pas coutume, avec Mathieu Malone. Alors j'avoue que j'ai découvert ce personnage, mais en fait je connaissais déjà son groupe orléanais, qui est un groupe qui a été créé et défait aussi dans les années 90, Joe Schmo, je le prononce très mal j'imagine.
Je crois que ce personnage a beaucoup de cordes à son arc, effectivement.
Enfin, tout à fait.
Et on va présenter, bah ouais, c'est déjà la 47 Polner Session.
Ça ouais, 47e.
Beaucoup d'artistes ou de groupes qui sont passés par justement le studio d'enregistrement de Polner. On représente, allez, pour juste resituer ce que c'est une Polner Session, bah, c'est un studio d'enregistrement. Fred Norgay, entre autres, Frédéric Gramage, un ingénieur du son, un artiste ou un groupe de musique, un enregistrement live avec public. Des objectifs, bah, c'est de comprendre et un petit peu de démocratiser ce que c'est l'enregistrement studio, d'ouvrir les portes là où finalement il y a très très peu de public, c'est vraiment un lieu de travail aussi. Et là, l'accueil de cet artiste orléanais, Mathieu Malone, c'est aussi parce qu'il est en pleine actualité. Et ça va vraiment permettre de concevoir une émission, un enregistrement live, une interview, et ensuite d'abonder sur les ondes des radios partenaires, en l'occurrence ZEF et d'autres aussi. Voilà, un artiste régional qui sera diffusé sur un territoire beaucoup plus large. Et Mathieu Malone, pour l'avoir vu, c'était au milieu des années 2000. C'est vrai qu'il a ce quelque chose qui est vraiment très particulier, surtout avec le groupe Joe Schmo, où on s'aperçoit que c'était un très malin mariage de la classique pop à l'anglaise, tu vois, de The Bradleys par exemple, à Wire, qui était un petit peu plus post-punk. Et là déjà, il commençait à aller vers l'avant-garde américain, tu sais, sur Sonic Youth. Voilà, il a réussi cette espèce de brassage improbable pour sortir une spécificité orléanaise, milieu des années 90, tu vois, avec une étiquette qui se disait peut-être pop, pop-rock, voilà. Sauf qu'il avait un vrai son. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour avoir suivi un petit peu son actu juste après, c'est vrai que Mathieu Malone prendra aussi d'autres routes d'exploration un peu plus lofi ou intimiste, hein, sur aussi un spectre de la chanson, et c'est là l'objet de ce rendez-vous sur la Pôle Nord session, car il va être en sortie de son quatrième album Des Amours, voilà, qui sera en présentation. Mais à part ça, il a aussi un autre une autre force, c'est qu'il il se crée sous un autre pseudo, c'est Londanum, un projet électronique.
Très bien, merci. On continue avec les Red Labs.
Eh ben là, ça y est, c'est l'agenda, c'est moi. Bonjour. Eh ben oui, premier rendez-vous public, ouverture de la salle. Ça va être la Red Lab numéro
28,
voilà, ben, la soirée d'ouverture, la Red Lab. Et ben, on reste dans la même idée d'un DJ résident qui nous a accompagné justement pour faire vivre ces moments dancefloor, ces moments électro, tac-tac, sur invitation aussi d'autres DJ qui sont locaux, régionaux, voire nationaux ou autres. Et Elisa, tac-tac.
Je rapproche un peu le micro. Voilà, donc tac-tac. Donc, comme disait Fred, c'est notre DJ résident sur les Red Lab depuis maintenant pas mal d'éditions Red Lab. Donc, tac-tac, déjà pour le présenter, c'est un grand collectionneur. Il a une collection de vinyles de plus de 4000 disques. qui viennent du monde entier, qu'il essaye à chaque fois d'enrichir en se baladant dans les boutiques de disques. Donc voilà, grâce à tout cet éclectisme musical en fait, et avec sa technique, il arrive vraiment à nous mixer des sets, que ce soit lounge, deep house, house, techno, minimal, électro, ou encore même drum and bass, hip-hop. Enfin voilà, c'est vraiment un DJ aux multiples facettes et qui arrivera toujours à ambiancer la soirée, peu importe le style musical qui lui est demandé. Donc voilà, DJ résident, donc Tac Tac, qui va forcément ouvrir cette soirée d'ouverture Red Lab 28. Et ensuite, on aura l'occasion aussi de voir sur scène Dan Hill, qui lui nous vient d'Orléans et qui officie depuis les années 90. Il fait partie du sound system D-Tract. Il est DJ, producteur, promoteur, beatmaker, donc c'est vraiment aussi un personnage aux multiples facettes. Et lui va plutôt faire du live sur du hardware et du software, avec comme objectif aussi de distiller les sonorités inédites de techno et de deep techno. Et ensuite, on va également recevoir Marie Prieux. Donc Marie Prieux, elle est native de Blois. Elle est partie pour sa voie professionnelle sur Paris en rédactrice de Trax Magazine et de Tsugi. Et elle est également donc DJ. Elle a été résidente au Bateau Phare à Paris pendant 3 ans. Et donc voilà, Marie Prieux, elle, au niveau de ses sets, va plutôt faire danser donc le public sur donc des sets deep house, en allant des classiques house et techno aux dernières pépites du genre. Et ensuite, on va continuer cette soirée avec Electric Rescue.
Donc voilà, donc c'est une soirée, une nuit, on va dire, qui est plutôt orientée techno, comme on peut l'entendre. Electric Rescue, eh ben c'est Antoine Husson, c'est une figure de la scène techno depuis le début des années 90. Mais lui, au niveau des rêves parties, compositeur de talent avec des sons minimales, mélodiques, électrisants, il crée son propre label, c'est Scriptum. Il est résident aussi d'une des salles mythiques, c'est le Rex, ou encore organisateur de certaines soirées qu'on a pu nommé Play. Il collabore sur de nombreux projets, dont Laurent Garnier, Popoff ou Stéphane Bolzin. Voilà. Et il est un petit peu à l'image de la techno actuelle, de ce que pouvait être à l'origine. Tu vois, Laurent Garnier, bon, il a vraiment pris sous son aile et il fait partie, voilà, je ne dirais pas de cette nouvelle vague, mais voilà, c'est quelqu'un qui a été repéré par ses pairs. Et c'est quelque chose qui est très, très important dans ce monde de DJ, live, compositeur, producteur, qui va aussi très, très vite. Il faut être au goût des sons vraiment actuels. On peut présenter Electric Rescue aussi avec un projet parallèle qu'il a eu, qu'il a actuellement. D'ailleurs, c'est WLVS qu'il monte avec Manuel Malin. Sous son blaze The Old River, où là ils mettent vraiment en scène un son purement techno. On va continuer cette soirée avec un duo Tourangeau qui va rester dans le spectre techno-électro, et ils ont pris le parti de jouer que sur les instruments analogiques. On va être sur des machines, des synthétiseurs, et pour l'autre ce sera un mix et un live machine. Leur dernier EP, Membrane, a été signé sur un label dématérialisé. Voilà, ce qu'on peut télécharger, qu'on peut payer en ligne directement, c'est le label JFX Lab. Et ça fait aussi partie d'une génération aussi qui s'est réappropriée des instruments analogiques, voilà, pour faire le son qu'on peut produire, tu sais, avec d'autres... d'autres sonorités bidouillées partout sur Internet. C'est un réel live de la part de Maz et son Tourangeau. Et on terminera cette soirée par Matt Ben, qui lui est reconnu Dixit, certains journalistes spécialisés électro, voilà, le digne héritier de Laurent Garnier. Et il a déjà écumé pas mal de scènes, de salles et de festivals, si j'ai à les nommer, Astropolis, Scopiton, Mars Attack, voilà, des panoramas. Et il bazoute vraiment très très fort sur de la techno.
Donc pour rappel, c'est la Red Lab 28, soirée d'ouverture du Château d'Eau, le samedi 7 octobre de 21h30 à 4h avec Matt Ben, Maz, Electric Rescue, Dan Hill, Marie Prieux et Tac Tac.
Et on s'écoute un extrait de Matt Ben avec We Want to Rave On.
working days in the life with Rick Bob music. Every fucking days in the life we think about music.
Eh bien, on continue avec la Pôle Nord Session numéro 48, et ce sera les Tourangeaux de Coucou.
Voilà, tout à fait. Donc, Coucou, comme tu l'as dit, donc c'est un duo Tourangeaux, un duo guitare-batterie, 100% instrumental, avec des influences rock, garage, stoner et psyché. Donc voilà, à venir découvrir en Pôle Nord Session le dimanche 8 octobre.
Et on s'écoute un rapide extrait pour se mettre dans le bain. Et bien voilà, c'est fort. Et après avoir perdu cet impôt en écoutant Coucou, on va pouvoir se faire des petits bouchons d'oreilles. Ça, c'est une action qui est reconduite tous les ans, c'est ça?
C'est une action qu'on fait à peu près tous les ans. Je vite parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Si vous êtes sensible des oreilles et que vous êtes exposé souvent à des concerts, des répétitions, que vous écoutez la musique au casque vraiment longtemps, et que vous voulez vous protéger, vous avez la possibilité de vous faire des bouchons moulés, donc ils sont moulés vraiment à l'empreinte de votre oreille, et qui permettent de se protéger en fonction de votre utilisation de la musique, qui permettent de protéger votre oreille pour pouvoir en écouter plus longtemps.
On précise que le fait que ça soit moulé, on a une meilleure qualité d'atténuation du son. Et puis, avec cette action, ils sont quand même beaucoup moins chers que si on les fait hors cette action.
C'est ça. Il y a un audioprothésiste, c'est ça qui est intéressant, qui se déplace pour les mouler et qui vient proposer plusieurs atténuations en fonction de votre utilisation de la musique, des répétitions que vous faites, du style de musique que vous écoutez, de la fréquence auquel vous êtes exposé à des concerts. Voilà.
Très bien. Et ensuite, le lendemain, ça sera un Château Marmot.
Ouais, c'est un Château Marmot. On recommence une nouvelle saison de Château Marmot, donc la musique pour les petites oreilles, pour les enfants. Et on commence avec un goûter-concert. Voilà, je pense que le nom est goûter-concert assez explicite. Là, on accueille des Tourangeaux, un duo de Tourangeaux C'est un duo de musiciens intervenants, donc qui font déjà des actions dans des écoles ou avec des publics en situation de handicap, par exemple, qui ont créé tout un instrumentarium avec des tubes PVC. Voilà, c'est assez original, c'est assez unique. N'hésitez pas à venir voir, c'est pas très cher, c'est fait pour les enfants, il y a un goûter après, c'est sur des tapis, on est bien. Et juste après le spectacle, quelques temps après le spectacle, plusieurs semaines, le duo il reviendra avec son instrumentarium pour expliquer à vos enfants comment ils ont fait, comment ils ont créé leur flûte, leur imbatube, etc. Et vous pourrez en créer aussi avec vos enfants.
Très bien, et bien on s'écoute rapidement un petit extrait de Permis de reconstruire, et après on va pouvoir passer aux adieux, aux au revoir.
Ouais. Thank you.
Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette première émission de cette saison Château Radio. Un petit mot avant de se dire au revoir ?
Ouais, vous pouvez retrouver toutes les informations, les dates, les tarifs, les concerts, les artistes, des vidéos en ligne, tout sur www.chateaudeau.com.
Très bien, et bien en tout cas vous êtes tous les bienvenus au Château d'Eau pour cette belle saison qui commence. Et puis on s'écoute un son avant de se quitter. On salue Patrice qui doit être derrière son poste, à qui on a bien mangé le créneau.
Désolé.
Ne vous inquiétez pas, la première de Encore Autre Chose commence dans quelques minutes avec après un petit extrait de Maz. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.